Donc, bonjour à tous. Nous tenions tout d'abord à remercier les associations partenaires du collectif PASS, ISM Interprétariat, Médecins du Monde, avec une attention toute spéciale pour Charlotte, qui a fourni un travail formidable. Ces deux associations ont très largement participé à l'organisation de cette journée. Merci aussi au ministère de nous accueillir dans un endroit prestigieux. Et nous remercions particulièrement la DGOS pour son soutien et sa présence avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous retrouver ici pour ce deuxième colloque national des PASS. Certains parmi vous étaient déjà présents en 2011 lors du premier colloque national. D'autres nombreux nous ont rejoints, sensibilisés ou intéressés par le sujet des PASS. À tous ce matin, nous souhaitons la bienvenue. Nous voici donc réunis pour ce deuxième colloque. Le premier avait eu lieu donc en mai 2011, à Paris également, et nous étions sortis reboostés avec l'envie de développer nos structures, d'impulser une nouvelle dynamique. Nous ne souhaitions pas que cette journée, aussi intense fut-elle sur le moment, reste un acte isolé, sans suite. Parce que c'est le risque de ces manifestations, une journée riche d'échanges, mais sans réel impact dans l'avenir. Cela n'a heureusement pas été le cas. Le premier colloque a été productif, et ce, à plusieurs niveaux. Il y a eu tout d'abord un impact institutionnel, avec la mise en place de plusieurs groupes de travail pluridisciplinaires, réunissant à la fois les tutelles et les acteurs de terrain. On peut citer le groupe de travail en partenariat avec la DGOS sur la création d'un nouveau référentiel MIGPASS, un groupe de travail à l'ARS d'Île-de-France. Cet impact institutionnel est fondamental, car nous savons tous ici que les acteurs de terrain, aussi motivés soient-ils, ne peuvent pas faire avancer beaucoup les choses sans le soutien des tutelles. Suite à notre première journée, a également été mis en place un site internet qui a vu le jour en janvier 2012. Ce site du collectif est un véritable espace d'échange sur les pratiques professionnelles. Il offre un support aux acteurs de terrain dans toute la France, permet un relais de l'information. Les interventions de ce colloque y seront d'ailleurs en ligne pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Enfin, il y a eu un impact national suite à ce premier colloque, avec une réelle ouverture sur les régions. En 2011, effectivement, le colloque, bien que national, était sans doute resté un petit peu trop parisien, avec des participants et des intervenants venant principalement d'Île-de-France. Le collectif, lui-même, avait un bureau exclusivement parisien. Depuis, les acteurs des régions se sont davantage impliqués, avec un bureau qui est désormais constitué pour moitié de membres non parisiens et une présence des professionnels des régions de plus en plus fréquente aux réunions du collectif. Aujourd'hui même, le choix du lieu n'est pas anodin. Certes, nous sommes à Paris, mais c'est quand même plus accessible, mais nous sommes surtout au ministère de la Santé et non plus dans les locaux de la PHP. La configuration même du programme montre des intervenants issus de plusieurs régions, et vous tous, dans cette salle, êtes venus de toute la France. Cette dimension nationale est indispensable pour qu'on continue à avancer ensemble, à confronter nos expériences, à soutenir des projets et à débattre sur des thèmes communs. Enfin, le dernier colloque a posé de nombreuses questions, dont celle qui nous anime aujourd'hui.
En effet, en 2011, nous avions déjà abordé le sujet des enjeux éthiques qui émergent dans les PASS. De nombreuses pistes avaient alors été élaborées lors de cette journée à l'HEGP, et il nous a semblé important de poursuivre cette démarche, tant ce sujet nous semblait porteur de développement dans de nombreuses directions. C'est ainsi que, lors de cette journée de 2011, Denis Méchali avait mis en avant que la complexité était une notion clé pour caractériser les PASS. C'est ainsi que Régis Aubry avait parlé de l'émergence de nouvelles solidarités et identifié la PASS comme un haut lieu de résistance à l'approche normative dans le champ de la santé. Ceux qui étaient là lors de cette journée n'ont certainement pas oublié le discours de clôture de Didier Sicard quand il émettait le souhait que l'esprit des PASS fertilise l'hôpital public. Par la suite, à l'occasion de l'inauguration officielle du site internet de l'association en janvier dernier à Médecins du Monde, Frédéric Pierru avait donné une conférence sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, les PASS, une éthique des paroles aux actes. Il s'agissait alors de mettre en avant le hiatus qui existe souvent entre la théorie et la réalité. Nous avons souhaité poursuivre cette réflexion aujourd'hui en l'élargissant sur le thème « Les PASS, modèles d'une éthique de la société ?» Point d'interrogation. Revenons quelques instants sur le choix de ce titre. Tout d'abord, le terme d'éthique. Nous avons longuement réfléchi pour savoir s'il fallait utiliser ce terme. Nous savons que celui-ci est de plus en plus galvaudé, voire instrumentalisé. Nous envisagerons ainsi, tout au long de la journée, les risques potentiels d'une éthique purement théorique. Il ne s'agit surtout pas ici de donner des leçons d'éthique. C'est en fait bien d'une éthique pragmatique et concrète dont il s'agit, c'est-à-dire une éthique de terrain à partir des questionnements que nous nous posons au quotidien dans nos PASS. Nous envisageons ici l'éthique dans une approche déductive, bottom-up, c'est-à-dire de la réalité à la théorie, plutôt que dans une approche inductive, top-down, où l'éthique ne serait qu'une application de concepts théoriques. Nous avons besoin de confronter nos questionnements avec des notions conceptuelles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons convié des experts de champs professionnels variés. Et nous remercions tout particulièrement Alain Cordier d'avoir accepté d'être le grand témoin de cette journée. Et c'est lui qui fera une synthèse de clôture de cette journée. Toute cette journée sera donc consacrée à la confrontation entre la théorie et la réalité. Et nous mettrons en avant le risque d'une application systématique des principes, sous couvert parfois de belles paroles, souvent par trop moralisatrices. On observe ainsi parfois, avec effarement, que l'on arrive à tout justifier avec des mots et des concepts qui semblent faire écran à tout discernement réflexif. C'est ainsi que des valeurs comme celle de la dignité ou de la bientraitance peuvent légitimer tout et son contraire. Il s'agit ici d'inciter à aller plus loin que l'approche par les seuls concepts théoriques. Ceux-ci semblent parfois empêcher toute réflexion, tant ils apparaissent inattaquables au premier abord. C'est le cas du concept du primat absolu de l'égalité ou de celui de la non-discrimination, qui peut se décliner en non-stigmatisation. Attention, car l'égalité absolue s'avère souvent inéquitable. Prenons l'exemple classique proposé par Aristote dans son traité de justice. Si on répartit un gâteau en parts égales, on est dans l'égalité, mais on va favoriser par exemple le jeune enfant qui aurait pu se contenter d'une toute petite part, et on va défavoriser le jeune adulte qui aurait besoin de plus de calories. Il s'avère donc ainsi plus juste de viser l'équité, c'est-à-dire l'égalité proportionnelle, que l'égalité absolue. Prenons un exemple dans les PASS. Nous entendons régulièrement dire, dans les PASS, en particulier les PASS dédiées, on stigmatiserait les patients précaires. Sous couvert du principe d'égalité, on voudrait appliquer le même standard à tous. Or, nous savons bien qu'en réalité, une prise en charge adaptée à la singularité de chaque situation est nécessaire. Nous savons bien que l'on ne prendra pas en charge de la même façon un patient d'un bon niveau social, ayant un travail, un logement, etc., et un patient isolé, sans logement, et ayant des difficultés à appréhender les complexités du système de soins. à ce deuxième patient. Il ne faut pas simplement faire la même chose qu'à l'autre, il faut faire plus. C'est-à-dire, pas seulement remettre une ordonnance pour 6 mois et puis débrouillez-vous. Il faut s'assurer que le traitement sera bien compris, bien pris, et mettre en place tout ce qui peut faire en sorte que ce résultat aboutisse concrètement. C'est cela l'équité. Essayer de réduire les inégalités plutôt que d'appliquer les principes à coups de belles paroles vides de sens. Dans ce cas particulier, ces belles paroles apparaissent en fait comme le moyen de faire passer une réalité beaucoup moins reluisante, qui est celle d'une approche purement comptable. Et oui, une passe coûte cher en personnel, médecin, infirmière, assistante sociale, et ce n'est pas rentable dans cette logique, à court terme et à courte vue. Revenons à notre titre. Nous y évoquons le terme de modèle. Nous sommes partis du principe que la passe constitue un verre grossissant qui fait apparaître des réalités que nous ne percevons souvent pas car elles sont diluées à l'échelon macroscopique. Pour terminer, les passes, c'est vrai, elles apparaissent comme un modèle du système de soins car les situations qu'on y rencontre sont très variées. Elle traverse tout le champ de la médecine et s'articule avec des problématiques sociales souvent complexes. Ces dispositifs nécessitent une articulation originale, on le reverra dans la journée, du care et du cure. Les passes constituent un sas, un lieu de passage transitoire dans une articulation avec les autres maillons du système d'organisation des soins et tout particulièrement avec la médecine de ville. Enfin, le lien avec la société pour terminer. Tout au long de la journée, nous envisagerons en quoi les passes constituent un observatoire unique des questions de société. Les passes, ce sont des laboratoires d'idées et d'initiatives qui reposent sur le décloisonnement et l'approche globale des situations. Là où l'approche unidimensionnelle s'avère réductrice et trompeuse, les passes proposent un modèle d'approche systémique. C'est un modèle qui prend en considération le patient comme une personne dans toutes ses dimensions, au-delà de la maladie ou de l'organe malade, dans une perspective de santé globale. On peut témoigner ici que, malgré les difficultés au quotidien, et elles sont parfois énormes, les professionnels des PASS acceptent au quotidien de relever le défi de la complexité. À l'inverse des approches normatives, la PASS est un modèle qui valorise l'humain, un modèle où s'illustre la formidable capacité d'adaptation des acteurs des PASS, de proposer des réponses adaptées à la singularité de chaque situation, au cas par cas, et pas simplement l'application de protocoles standardisés. C'est enfin un modèle qui permet d'observer et questionner les logiques parfois paradoxales et contradictoires de notre système de soins et de la société. Nous en évoquerons un tout particulièrement au cours de cette journée, c'est celui de la valorisation du temps passé et de la valeur de l'humain. Il apparaît ainsi nécessaire d'envisager comment revaloriser cette part essentielle de l'acte de soin, qui est l'acte intellectuel et la part de lien à l'autre, qui ne sont, on le sait bien, actuellement quasiment pas valorisés par rapport aux actes techniques. Dans les passes, enfin, nous prenons la mesure de la contrainte budgétaire de façon très concrète. Comment faire pour articuler soucis de l'autre et intérêt général ? Les acteurs des PASS peuvent proposer des pistes pour résoudre cette équation complexe. Dans cette période de crise économique, les PASS proposent une approche qui associe sobriété et qualité dans une perspective de solidarité, de durabilité et de responsabilité collective. Nous allons donc commencer la journée dès maintenant. Alors, on a un petit contretemps, c'est hélas Anne-Marie Moulin, sa mère est très, très souffrante et elle a dû aller à son chevet à Clermont-Ferrand. Donc, nous vous proposons, malgré tout, car sa communication était très, très importante pour nous, de la substituer par la lecture de son texte et cette lecture sera faite par Denis.
Bonne journée.